trois petits tours et puis s'en va. Il n'y a pas eu d'accord de débat. Cette triple séquence de discussion sur l'avenir institutionnel a un terrible goût d'inachevé. Surtout que Manuel Valls est reparti comme si de rien n'était, sans laisser de feuille de route et avec le seul bilan d'un échec. Nous devons constater avec franchise qu'aucun accord n'a été conclu, a déclaré sobrement le ministre des Outre-mer. Et il cachait mal sa déception, lui qui avait mis tout son poids dans la balance, et était même allé jusqu'à nous menacer du chaos ou de la guerre civile si aucun accord n'était trouvé. Et l'on se demande comment il s'est lui-même enfermé dans ce cercle vicieux dont un non-accord était l'issue inéluctable, alors que déjà un accord était très improbable. Pourquoi Manuel Valls, qui jouait une partie de son avenir et de sa réputation politique dans le dossier calédonien, a-t-il choisi délibérément la politique du pire et la fuite en avant ? Cela laisse perplexe et l'on est obligé de chercher quelque explication à l'attitude insensée d'un ministre d'État qui vient proposer un projet d'indépendance association à des Calédoniens qui ont refusé à trois reprises l'indépendance. Et deux motivations viennent à l'esprit. La première, c'est qu'il pensait vraiment réussir à obtenir un accord. Il était parti le mois dernier en affirmant qu'une étape décisive avait été franchie et il se disait que c'était plié, qu'il suffisait d'enfermer tout le monde dans un hôtel pendant deux ou trois jours pour arriver à ses fins. Mais n'est pas Michel Rocard qui veut, et la stratégie du huis clos ou du conclave, ça ne marche pas à tous les coups. Et pourtant Manuel Valls y croyait, parce qu'il a une image erronée du paysage politique calédonien, une image qui est d'ailleurs largement partagée et relayée par une certaine presse. Pour eux, il y a en Calédonie des modérés et des radicaux. Les modérés, ce sont l'Uni, Calédonie Ensemble et l'Éveil Océanien, une sorte de centrisme qui serait prêt à un accord quel qu'il soit et à n'importe quel prix. Mais c'est déjà une erreur absolue de faire l'amalgame entre ces trois formations. Quant aux radicaux, ce sont l'UCFLNKS et les loyalistes et le Rassemblement. Ils sont renvoyés dos à dos, comme si l'on pouvait traiter de la même façon la CCAT et ses soutiens, qui se sont livrés à des violences insurrectionnelles destructrices et cataclysmiques, pour tenter d'imposer une indépendance pleine et entière, et les partisans de la France qui refusent l'indépendance parce que c'est le choix fait par une majorité de Calédoniens. Mais pour Manuel Valls, une partie de la gauche et une certaine presse, c'est la même chose. Ils sont estampillés radicaux. C'est peut-être sur ce postulat erroné que le ministre des Outre-mer comptait bâtir un accord. Tout n'aurait pas été joué pour autant, mais au moins, il aurait pu sauver la face en expliquant que ce sont les partisans de la France radicalisés qui avaient fait obstacle à son projet. L'autre motivation est moins machiavélique mais plus triviale. Manuel Valls a peur. Il a peur de la CCAT et de ses violences. Il est tétanisé. Pendant ces trois jours de conclave, l'œil de Bakou était dans la place, au sein même de la délégation FLNKS. Et on ne sait pas quel message lui a été passé, mais le 13 mai est pour lui un horizon indépassable. Il y a le résultat des trois référendums, dit-il, mais il y a le 13 mai. Il faut ouvrir le corps électoral, reconnaît-il, mais il y a le 13 mai. Comme si pour un ministre d'État, ancien Premier ministre, la violence pouvait l'emporter en légitimité sur la démocratie et l'intégrité de l'État. Mais il se dit que le retour en métropole de Manuel Valls ne sera pas des plus simples, parce que sa proposition insensée n'aurait pas été validée au plus haut sommet de l'État. Manuel Valls a joué et il a perdu. Rien ne dit qu'il reviendra en Nouvelle-Calédonie une quatrième fois.